Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi, Surianto, on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Ses auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi de commentaires. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre mission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Salutaires auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal dont le titre. Le président Joko Widodo a commandé le ministre de la coordination maritime de renforcer la politique maritime. L'Indonésie souligne le respect du droit international relatif à la mer de Chine méridionale. Le ministre de la communication et de l'information priorise le réseau de la télécommunication des zones frontalières. Le vice-président facilite une réunion Merci Walubi pour aider le Myanmar. L'Indonésie et la Norvège renforcent le partenariat de la protection des forêts et enfin. L'Association indonésienne des élèves et des étudiants en Égypte organisera le symposium international de l'Association des élèves indonésiens. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a commandé le ministre de la coordination maritime de coordonner le renforcement de la politique maritime simple et réalisable dès que possible. Le président a donné le temps jusqu'en juillet 2016 pour que cette mesure soit faite immédiatement. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire du cabinet Pramono Anung dans une conférence de presse après une séance limitée pour discuter du renforcement de la politique maritime et l'industrie de la pêche dans le bureau du présidentiel mercredi. Pramono Anung a également mentionné, le président a exprimé la nécessité d'une campagne de manger du poisson comme le remplaçant de la viande. En outre, le président a également mentionné le problème de la contrebande de ressources marines. Le président et le vice-président ont soutenu la coordination entre les organismes tels que la Police nationale indonésienne, l'Agence de sécurité maritime, le ministère de la mer et de la pêche et d'autres. Pendant ce temps, le ministre de la coordination maritime, Rizal Ramli, a déclaré que le gouvernement voulait profiter du secteur maritime à la prospérité du peuple. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné l'importance du respect du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une clause en 1982 par les pays impliqués dans le différend de la mer de Chine méridionale LCS. Sans le respect du droit international, la paix et la stabilité seront difficiles à être réalisées. C'est ce qu'a déclaré la ministre Retno Marsudi dans une discussion sur la situation dans la mer de Chine méridionale à la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Chine à Kunming en Chine qui a eu lieu les 13 et 14 juin. La réunion qui a été assistée par le ministre chinois des Affaires étrangères et tous les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN a discuté la préparation de la commémoration du 25e anniversaire du partenariat ASEAN-Chine, ainsi que les questions régionales, y compris la situation en mer de Chine méridionale. Les ministres ont estimé que dans la commémoration de 25 ans de partenariat ASEAN-Chine, la coopération pour la paix et la prospérité était plus pertinente. En effet, la paix et la stabilité régionale devraient être maintenues afin d'assurer des conditions propices au développement des pays membres de l'ASEAN et de la Chine. Le ministre des Communications et de l'Information, Rudiantara, priorise le développement des réseaux de télécommunications dans les régions frontalières de l'Indonésie, en particulier sur l'île de Kalimantan. Cela a été dit par le ministre Rudiantara à Batam, les îles de Riau, le mercredi. Le ministère des Communications et des Technologies de l'Information a noté de 115 villages frontalières sur l'île de Kalimantan, seulement 5 endroits qui ont été construits des réseaux de télécommunications. Le gouvernement veut développer les îles frontalières afin de ne pas perdre avec les pays voisins. Il a mentionné, en 2019, toutes les capitales de résidence seront servies et pour les îles de la frontière est une priorité, mais n'est pas le principal. Le vice-président Yusuf Kalla a facilité une réunion de l'Institut humanitaire Medical Emergency Rescue Committee, ou MERCI, et représentant les bouddhistes d'Indonésie ou Walubi pour construire l'hôpital humanitaire à Rakhine, le Myanmar. Cela a été dit par le présidium de MERCI, Dr Sarbini Abdul Murab, après une réunion au bureau du vice-président le mercredi. Cette réunion est assistée aussi par le comité central de la Croix-Rouge indonésienne et le dirigeant de Walubi Widya Wimartapu. Selon Sarbini, le président de Walubi soutient la construction d'un hôpital indonésien qui sera construit sur la superficie de 4000 m² à Mrauku, l'État Rakhine, au Myanmar. L'hôpital de Merci Walubi PMI sera le symbole des relations harmonieuses entre les croyants religieux en Indonésie. En plus de l'achat de terrain, Merci a également reçu le soutien du gouvernement Rakhine et on a besoin de fonds de construction d'environ 20 à 30 milliards de roupias. L'hôpital au Myanmar sera la deuxième construction des établissements de santé par Merci. Auparavant, Merci a construit l'hôpital indonésien à Gaza en Palestine et a été inauguré par le gouvernement indonésien au début de 2016. L'Indonésie et la Norvège vont continuer à renforcer le partenariat dans les efforts de réduire les émissions provenant de la déforestation et de la dégradation ou RED+. Le fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Oslo, Hartio Harkomoyo, a dit jeudi que la Norvège appréciait le premier ministre norvégien Erna Solberg sur une variété de mesures réglementaires prises par le gouvernement du président Joko Widodo. Selon Harkomoyo, le ministre de l'Environnement et le Climat de la Norvège, Vidar Helgesen, a déclaré cette question quand il a reçu la délégation indonésienne au bureau du ministère de l'Environnement de la Norvège à Oslo, 15 juin. À cette occasion, la délégation indonésienne a expliqué les mesures prises au niveau national par le gouvernement pour appliquer l'accord sur le climat à Paris dans le cadre du partenariat bilatéral Indonésie-Norvège sur la RED+. L'Association indonésienne des élèves et des étudiants en Égypte organisera le symposium international de l'Association des élèves indonésiens au Caire du 25 au 28 juillet 2016. Le thème de ce symposium est « Renforcer l'identité de la nation indonésienne ». Le chef du comité organisateur de ce symposium, Imdad Azizi, au correspondant de RRI en Égypte, a déclaré mercredi que ce thème est soulevé parce que les conditions Indonésie qui sont vulnérables d'être touchées par le conflit entre l'ethnie, la religion et la classe. En outre, certains conflits Indonésie se produisent en raison de différences idéologiques. IMDAT a Jésus expliqué de ce fait, l'Association des élèves indonésiens à l'étranger essaie de renforcer l'identité nationale tout en offrant des solutions. IMDAT Azizi espère que ce symposium devient un moment de processus dialectique de perspicacité et des idées qui sont contribuées à la nation. Ce symposium pourrait également encourager les changements de la nation. Selon lui, il a invité plusieurs orateurs, entre autres le ministre indonésien de l'Éducation et de la Culture, Anies Baswedan, et le ministre de la Recherche, la Technologie et l'Enseignement supérieur, M. Nasir. IMDAT Azizi a expliqué, l'Association des élèves indonésiens dans 42 pays enverrait la délégation. En outre, il y a 213 personnes provenant de diverses organisations de jeunes sont disposées à être présentes. Serditor, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Cinquième longtemps, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, le président a proposé le candidat unique pour un nouveau chef de la police indonésienne. Le statut du numéro 1 dans la police indonésienne réémerge une question brûlante. Comme tenu, le chef de la police indonésienne actuel, le général Badruddin Haiti, va se retraiter en juillet 2016. Cependant, l'agitation, comme il y a 2 ans, avait disparu, parce que le président Joko Widodo a finalement proposé un candidat unique du nouveau chef de la police indonésienne au Parlement pour passer rapidement en test de compétences et d'honorabilité. Mais la nomination du commissaire général Tito Karnavian est très intéressante parce qu'il y a un changement dans la tradition se produisant dans le département de la police. Répondant à la nomination unique Tito Karnavian, le chef de la police Badruddin Haiti a déclaré que la session du Conseil des rangs et des hautes fonctions ou Wanjakti de la police a proposé 3 noms et ne comprend pas le nom de Tito Karnavian. Mais auparavant, le président Joko Widodo a en effet discuté l'autre nom possible qui est plus jeune pour son gouvernement durable. Parce que les 3 noms proposés se retraiteront moyennement en 2017, alors que Tito Karnavian en 2022. L'un des changements traditionnels qui se produit dans la candidature unique du chef de la police indonésienne est l'ethnie apportée par le candidat éventuel du nouveau chef de police. Un observateur, Muhammad Bakir, a dit que le président Joko Widodo avait réussi de changer une tradition de longue date dans la police en proposant un seul candidat qui ne vient pas javanaise ni sundanaise. En outre, il a également estimé que le candidat unique Tito Karnavian n'a pas d'affilié à aucun parti politique. Muhammad Bakir a également admis que la capacité de Tito Karnavian, en particulier sa capacité à lutter contre les activités terroristes, comme l'attaque terroriste à Jakarta en janvier dernier 2016, est évidente. D'autre part, le président du Presidium de Indonesian Police Watch, Neta Espane, a évalué que le président Joko Widodo devrait prendre en considération l'ancienneté avant de nommer le général Tito Karnavian comme le seul candidat pour le chef de la police suivante. Neta a également dit que l'âge du général Tito, qui est relativement jeune, et à craindre de perturber le processus de leadership s'il est élu en tant que chef de la police plus tard. Il a ajouté qu'il y a encore beaucoup d'officiers supérieurs qui sont éligibles. Pendant ce temps, le Parlement a reçu la proposition du candidat du chef de la police le mercredi 14 juin. Le président de la Commission 3 du Parlement, Bambang Susatyo, a dit que la lettre du président Joko Widodo liée à un seul candidat pour le nouveau chef de la police a été reçue par la Commission 3. Il a également souligné que le nom du commissaire général Tito Karnavian, qui sert maintenant chef de l'Agence nationale de la lutte contre le terrorisme, est maintenant remis à l'organe consultatif du Parlement pour être lu dans la séance plénière. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.uk.
Ces auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition de 16 juin. On va commencer le 16 juin 1928. Chiang Kai-shek annonce le transfert de la capitale de Pékin à Nanking. En 1928, à l'arrivée au pouvoir de Chiang Kai-shek, président du Kuomintang, la capitale de la République populaire de Chine, installé à Pékin sous la présidence de Yuan Shikai et à nouveau déplacé à Nanking, la ville reprend alors son statut de capitale qu'elle avait acquis en 1910 et quitté sous la présidence de Yuan Shikai. Cependant, Pékin continue à prétendre au statut de capitale et se fait surnommer la capitale du Nord, tandis que Nanking est appelée la capitale du Sud. On continue le 16 juin 1943, coup d'État manqué contre Perón. Une tentative de push menée par la marine contre le président argentin Juan Domingo Perón échoue. Hors de l'opposition des militaires soutenus par la bourgeoisie et la CIA ou service secret américain, Perón doit faire face à la détérioration économique du pays. La disparition de sa femme Evita, qui incarnait l'élan révolutionnaire et l'hostilité en Église, un autre coup d'État aura raison de lui le 20 septembre suivant. On termine le 16 juin 1963, la première femme dans l'espace. La soviétique Valentina Tereshkova, 26 ans, est la première femme à effectuer un vol spatial. Deux ans plus tôt, son compatriote Yuri Gagarin était le premier homme à quitter la Terre à bord d'une capsule Vostok. Après 48 révolutions autour de la Terre, 2 millions de kilomètres et 71 heures de vol, Valentina Tereshkova atterrira le 19 juin à Karaganda, dans les steppes du Kazakhstan. En 1969, elle deviendra vice-présidente de la Fédération internationale démocratique des femmes. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonjour, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Les entreprises étrangères sont interdites d'attraper des poissons dans les eaux indonésiennes ». La ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Mme Susi Pujiastuti, interdit aux entreprises étrangères opèrent sous la forme d'investissement étranger d'attraper des poissons dans les eaux indonésiennes. Cela a été déclaré par la ministre au cours d'un dialogue avec des pêcheurs dans le port à Kupang dimanche 12 juin. Selon la ministre Susi Pujiastuti, seulement les pêcheurs indonésiens qui capturent les poissons dans ce pays. Cette question a été déclarée par la ministre des Affaires maritimes et de la pêche liée à la communauté économique de l'ASEAN qui est déjà en vigueur en Indonésie. Selon elle, bien que la CEA soit appliquée dans tous les domaines, mais pour le secteur de marine et de la pêche, il n'y a pas d'occasion pour les investisseurs étrangers. Mais la ministre des Affaires maritimes et de la pêche continue de permettre des investissements étrangers dans le domaine de la pêche, mais seulement dans la gestion, comme par exemple la construction de l'usine de glace, la transformation du poisson et la gestion liée aux affaires maritimes et de la pêche. Elle donne également la facilité aux étrangers de gérer 100% dans le secteur. Jusqu'à présent, le gouvernement a fixé les pêches de capture incluses dans la liste négative de l'investissement. Dans un proche avenir, seront tracées la source des fonds qui sont utilisés par les investisseurs. Si l'investissement est dans la dette, il sera vérifié la source des fonds. Cela est fait afin de maintenir les ressources marines pour l'avenir. À cette fin, la ministre a demandé aux pêcheurs de garder la mer sans attraper des poissons en utilisant des bombes, le potassium et le chalutage. Jusqu'à présent, le secteur de la marine et de la pêche a un impact positif sur le produit intérieur brut du secteur de la pêche. Au deuxième trimestre 2016, a atteint 8,96%, tandis que d'autres ministères n'atteignent que 5,4%. Par conséquent, les pêcheurs doivent collaborer avec les parties concernées pour garder la mer contre la pêche illégale. Chermi, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le président indonésien Joko Widodo a commandé le ministre de la Coordination maritime de coordonner le renforcement de la politique maritime simple et réalisable dès que possible. Le président a donné le temps jusqu'en juillet 2016 pour que cette mesure soit faite immédiatement. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire du cabinet Pramono Anung dans une conférence de presse après une séance limitée pour discuter du renforcement de la politique maritime et l'industrie de la pêche dans le bureau du présidentiel mercredi. Pramono Anung a également mentionné, le président a exprimé la nécessité d'une campagne de manger du poisson comme le remplaçant de la viande. En outre, le président a également mentionné le problème de la contrebande de ressources marines. Le président et le vice-président ont soutenu la coordination entre les organismes tels que la Police nationale indonésienne, l'Agence de sécurité maritime, le ministère de la mer et de la pêche et d'autres. Pendant ce temps, le ministre de la Coordination maritime, Rizal Ramli, a déclaré que le gouvernement voulait profiter du secteur maritime à la prospérité du peuple. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné l'importance du respect du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une clause en 1982, par les pays impliqués dans le différend de la mer de Chine méridionale LCS. Sans le respect du droit international, la paix et la stabilité seront difficiles à être réalisées. C'est ce qu'a déclaré la ministre Retno Marsudi dans une discussion sur la situation dans la mer de Chine méridionale à la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Chine à Kunming en Chine qui a eu lieu les 13 et 14 juin. La réunion qui a été assistée par le ministre chinois des Affaires étrangères et tous les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN a discuté la préparation de la commémoration du 25e anniversaire du partenariat ASEAN-Chine ainsi que les questions régionales, y compris la situation en mer de Chine méridionale. Les ministres ont estimé que dans la commémoration de 25 ans de partenariat ASEAN-Chine, la coopération pour la paix et la prospérité était plus pertinente. En effet, la paix et la stabilité régionale devraient être maintenues afin d'assurer des conditions propices au développement des pays membres de l'ASEAN et de la Chine. Le ministre des Communications et de l'Information, Rudiantara, priorise le développement des réseaux de télécommunications dans les régions frontalières de l'Indonésie, en particulier sur l'île de Kalimantan. Cela a été dit par le ministre Rudiantara à Batam, les îles de Riau, le mercredi. Le ministère des Communications et des Technologies de l'Information a noté de 115 villages frontalières sur l'île de Kalimantan, seulement 5 endroits qui ont été construits des réseaux de télécommunications. Le gouvernement veut développer les îles frontalières afin de ne pas perdre avec les pays voisins. Il a mentionné, en 2019, toutes les capitales de résidence seront servies et pour les îles de la frontière est une priorité, mais n'est pas le principal. Le vice-président Soufkala a facilité une réunion de l'Institut humanitaire Medical Emergency Rescue Committee, ou MERCI, et représentant les bouddhistes d'Indonésie ou Walubi pour construire l'hôpital humanitaire à Rakhine, le Myanmar. Cela a été dit par le présidium de MERCI, Dr Sarbini Abdul Murab, après une réunion au bureau du vice-président le mercredi. Cette réunion est assistée aussi par le comité central de la Croix-Rouge indonésienne et le dirigeant de Walubi, Widya Wimartapu. Selon Sarbini, le président de Walubi soutient la construction d'un hôpital indonésien qui sera construit sur la superficie de 4000 m² à Mrauku, l'État Rakhine, au Myanmar. L'hôpital de Mercy Walubi PMI sera le symbole des relations harmonieuses entre les croyants religieux en Indonésie. En plus de l'achat de terrain, Mercy a également reçu le soutien du gouvernement Rakhine et on a besoin de fonds de construction d'environ 20 à 30 milliards de roupias. L'hôpital au Myanmar sera la deuxième construction des établissements de santé par Mercy. Auparavant, Mercy a construit l'hôpital indonésien à Gaza en Palestine et a été inauguré par le gouvernement indonésien au début de 2016. L'Indonésie et la Norvège vont continuer à renforcer le partenariat dans les efforts de réduire les émissions provenant de la déforestation et de la dégradation ou RED+. Le fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Oslo, Hartio Harkomoyo, a dit jeudi que la Norvège appréciait le premier ministre norvégien Erna Solberg sur une variété de mesures réglementaires prises par le gouvernement du président Joko Widodo. Selon Harkomoyo, le ministre de l'Environnement et le Climat de la Norvège, Vidar Helgesen, a déclaré cette question quand il a reçu la délégation indonésienne au bureau du ministère de l'Environnement de la Norvège à Oslo, 15 juin. À cette occasion, la délégation indonésienne a expliqué les mesures prises au niveau national par le gouvernement pour appliquer l'accord sur le climat à Paris dans le cadre du partenariat bilatéral Indonésie-Norvège sur la RED+. L'Association indonésienne des élèves et des étudiants en Égypte organisera le symposium international de l'Association des élèves indonésiens au Caire du 25 au 28 juillet 2016. Le thème de ce symposium est « Renforcer l'identité de la nation indonésienne ». Le chef du comité organisateur de ce symposium, Imdad Azizi, au correspondant de RRI en Égypte, a déclaré mercredi que ce thème est soulevé parce que les conditions indonésiennes qui sont vulnérables d'être touchées par le conflit entre l'ethnie, la religion et la classe. En outre, certains conflits indonésiens se produisent en raison de différences idéologiques. Imdad Azizi expliquait de ce fait, l'Association des élèves indonésiens à l'étranger essaie de renforcer l'identité nationale tout en offrant des solutions. Imdad Azizi espère que ce symposium devient un moment de processus dialectique de perspicacité et des idées qui sont contribuées à la nation. Ce symposium pourrait également encourager les changements de la nation. Selon lui, il a invité plusieurs orateurs, entre autres le ministre indonésien de l'Éducation et de la Culture, Anies Baswedan, et le ministre de la Recherche, la Technologie et l'Enseignement supérieur, M. Nasir. Imdad Azizi a expliqué, l'Association des élèves indonésiens dans 42 pays enverrait la délégation. En outre, il y a 213 personnes provenant de diverses organisations de jeunes sont disposées à être présentes. Serditor, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours de neuf phrases qu'on vous propose à la Voix d'Indonésie. Dans ce mettons, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
santé, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous introduisons un des menus typiques de l'iftar à Aceh. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. Le mois Ramadan est arrivé. Pour vous, amateurs de tourisme culinaire, il est temps que vous chassez pour le repas typique de Ramadan qui ne sont pas nécessairement trouvés au jour habituel. Lors de la chasse de repas typiques de Ramadan dans diverses régions en Indonésie, ne soyez pas surpris si vous voyez la même culinaire. Par exemple, kolak, soit la compote. Ce menu d'iftar, qui est généralement fabriqué en banane, pommes de terre et cuit dans le lait de coco et le sucre de palme, est devenu un menu favori d'iftar de la société indonésienne. Bien que trouvé dans presque toutes les régions en Indonésie, chaque région dispose de différents types et différents goûts de la compote. À Aceh, on nomme la compote bulukat kuah tuhe. La compote de banane gluang est délicieuse. Bulukat est du riz gluang qui a été cuit. Bulukat kuah tuhe se compose de bulukat, soit du riz gluang cuit, des morceaux de banane, morceaux de jacquier, le sucre blanc et les feuilles pandanus mélangées avec une sauce de lait de coco. Les bananes utilisées étaient un type spécial de bananes, et non pas les bananes en général. Pour rendre ce culinaire, la banane utilisée est la banane klat berat, soit une sorte de plantain. C'est assez facile pour rendre cette cuisine, car il est presque le même que faire la compote en général. Seulement du riz gluang qui est cuit séparément de la sauce. Pour faire la sauce, le lait de noix de coco est cuit avec des morceaux de banane, des morceaux de jacquier, feuilles de pandanus et de sucre. La couleur de la sauce est blanche pâle, car il utilise le sucre au lieu de sucre de palme. Quand il est servi, le bulukat est arrosé avec la sauce. Avant de manger, l'arôme parfumé est immédiatement senti. Ceci est parce que bulukat kuah tuhe utilise des feuilles de pandanus. Il était aussi savoureux, doux et délicieux. Bulukat kuah tuhe est le menu favori du peuple Aceh pour l'iftar. Ces nourritures n'existent pas seulement au mois Ramadan. Il est aussi servi dans l'anniversaire du prophète Muhammad. Vous pouvez manger ce culinaire selon vos goûts. Si vous n'aimez pas le bulukat ou du riz gluang cuit, vous pouvez tout simplement manger le kuah tuhe. En plus de bulukat, vous pouvez manger kuah tuhe avec apem. Apem est un aliment traditionnel de farine de riz et de lait de noix de coco sous forme de bol. Bulukat kuah tuhe est facilement trouvé pendant le Ramadan à Aceh. Le prix est relativement bon marché, autour de 15 000 rupiah par portion. Chers amis, c'était la rubrique du magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. À demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Salut les amis, la voix de l'Indonésie, voici le magazine de warna-warni ou la couleur indonésienne. Et pour cette édition, jeudi, on vous présente sur le navire de l'esprit de Majapahit qui est arrivé au Japon. Bon, chers amis, assurez-vous que vous restez toujours avec nous dans www.voi.co.id. Chers fidèles amis, au dimanche le 12 juin, le navire de l'Esprit de Majapahit est arrivé à Naha, Okinawa, au Japon. Ce navire est une réplique de celle du 13e siècle de l'Empire de Majapahit. Il était capable d'explorer la mer de Chine méridionale de Pier Marina Ancol, Jakarta, le 11 mai, puis au Japon. Sous le capitaine de navire Andi Muhammad Amin avec 8 membres de l'équipage. Ces équipages ont été accueillis par le député du ministère de l'Ordinateur de Maritime Safri Burhanuddin, accompagné par certain nombre d'officiers de l'ambassade de l'Indonésie à Tokyo et le président de la Fondation Damang de Majapahit. Chers amis, Okinawa, la première destination au Japon, avant sa destination finale à Tokyo, où ce navire sera installé au musée. On choisit Okinawa parce que dans la région d'Okinawa se trouvent des traces de l'Empire de Majapahit. Grâce à la découverte de kris de Majapahit, le couteau traditionnel de Majapahit, à Okinawa, on croit que l'Empire de Majapahit a déjà contacté avec le peuple d'Okinawa. La proximité de l'histoire passée entre le royaume de Majapahit et la région du Japon est renforcée par la découverte de la céramique de Imori de l'Empire japonais de 13e siècle à Trowulan, Java de l'Est. La grandeur du royaume de Majapahit fait attirer l'attention des archéologues et des académiciens du Japon car ils croient que les deux pays ont déjà établi la relation au cours de l'âge d'or du royaume Majapahit au 13e jusqu'au 15e siècle. L'expédition d'esprit de Majapahit étant initiée par le ministère coordinateur de maritime qui a pour but de faire la mission de le flashback d'encourager la culture maritime nationale. Chers amis, avant d'arriver à Naha, Okinawa, le navire d'esprit de Majapahit a été frappé par des grands obstacles tels que la grande vague avec la hauteur d'environ 5 mètres au cours de Kaohsiung, Taïwan. On choisit cette navigation car la route aux Philippines n'est pas complètement sécurisée. Outre de grandes vagues, le navire a également des fuites à certaines parties depuis l'arrivée de Pontianak, dont l'arrivée d'esprit de Majapahit à Naha, Okinawa, est vraiment remarquable et énorme parce que ce navire en bois est assez petit avec l'écran ni petit ni grand et un moteur qui n'est pas trop grand. La longueur de ce navire est seulement 20 mètres et une largeur de 4,5 mètres. Chers amis, c'était l'histoire du navire de réplique de 13e siècle appelé l'Esprit Majapahit qui a navigué à Okinawa au Japon. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant au divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop de l'Indonésie, Imania. Voici sa première chanson intitulée « Mon désir ». Bonne écoute.
Bye.
Chers auditeurs, c'était la chanson du Mania intitulée Mon désir. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ce.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Imaniar, qui a le nom complet Imaniar Nur Said, né à Jakarta le 15 octobre 1965, est une chanteuse indonésienne. La fille du grand musicien Said Klana est courante du courant musical R&B. Avant d'être connue en tant que soliste, Imaniar a rejoint avec ses frères dans une bande de la famille, The Big Kids, et elle a chanté ensemble avec sa sœur Lydia Nur Said. Son jeune frère, Iwan Nur Said, a participé au monde de la musique de jazz et d'autres. Son jeune frère, Inang Nur Said, était célèbre comme le batteur qui a rejoint le groupe musical Demarat avec le courant musical jazz et le groupe musical God Bless qui a le courant de rock. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante de manière intitulée « Désordonnée ». Bonne écoute.
Ow.
Cinquième longtemps, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse Imania. La musique qui est facile à écouter mais exclusive est un bon emballage pour le vocal typique d'Imania et sa sœur Lydia. Le vocal Lydia qui a la tendance jazz est combiné uniquement avec la nuance R&B. Malheureusement, il y a seulement 2 albums qu'elles ont été lancés. Imania est également devenue une soliste en lançant plusieurs albums, y compris « Mon désir est désordonné » qui a vendu près d'un million de copies. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons d'Imania intitulées « Tempête de l'amour et la vie ». Bonne écoute et au revoir.
Terima kasih.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, c'est la fin de notre émission en français de La Voix de l'Indonésie ce soir. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de La Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.